Il y a 3 ans, Canal Vie a diffusé un documentaire que j'ai eu l'occasion de produire sur la maladie de Lyme. À l'époque, il y a 3 ans, il y avait encore énormément de déni de la part du milieu médical sur cette maladie qui pourtant prenait de plus en plus d'ampleur. Qu'est-ce que c'est que la maladie de Lyme? Je pense que depuis, il y a de plus en plus de Québécois qui se sont informés là-dessus. On en a parlé. Et depuis le documentaire également, la santé publique a décidé de reconnaître effectivement le nombre d'augmentation des cas de maladie de Lyme au Québec. La maladie de Lyme, en fait, vous pouvez la contracter par l'entremise de tiques. Les tiques qui viennent des États-Unis, qui traversent la frontière, pour elles, il n'y en a pas de frontière. Ne passe pas à douane, les tiques. Ne demande pas de passeport à personne. Ça traverse allègrement. Ça va à peu près dans toutes les régions du Québec. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y en a aucune qui est à l'abri. Il y en a des plus affectées que d'autres. On pense entre autres à l'Estrie, mais les Laurentides. La région de Montréal est aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont fait mordre dans le coin de Saint-Hilaire, par exemple, Mont-Saint-Bruno, bref. Mais vous allez vous promener dans des parcs à Montréal, puis il y en a peut-être aussi des tiques. Et il faut faire vraiment très attention, surtout aux symptômes. Il y en a qui ont la chance, j'allais dire, d'avoir une trace, une marque de morsure de tique, mais il y en a, comme mon invité François Doré, que vous connaissez parce qu'il est policier à la retraite et il vient régulièrement à notre émission. François qui s'est fait mordre sans s'en rendre compte, qui n'a jamais eu de marque d'ailleurs, le fameux halo rouge dont on dit là, qu'il est synonyme de morsure de tique. Merci François d'être là. Toi, tu ne l'avais pas vu. Là.
Ben, étant donné ma condition, non, je ne l'ai pas vu.
Ouais, est-ce non, que c'est vrai.
C'était dans... ouais, c'est ça.
Mais je veux dire, tu ne l'as pas senti non plus. Là.
Non, je ne peux pas dire que je l'ai senti. Et d'ailleurs, quand j'ai eu les résultats il y a quelques semaines, même le docteur qui m'a informé ne savait pas depuis combien de temps. Alors, je peux pas le dire à quel moment.
On va revenir sur ton cas. Le temps de présenter Annie Roussy, qui est présidente de l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Merci beaucoup, Annie, d'être là. Vous aussi, vous avez eu, bien sûr, cette maladie. Vous êtes dans la région de Rimouski. Vous avez eu des symptômes en 2013. Racontez-nous un petit peu comment vous en êtes rendu compte que c'était des tiques.
En fait, moi, j'ai jamais eu connaissance de la morsure de tiques. Par contre, j'ai commencé à avoir des symptômes étranges que je reliais au surmenage du travail que j'effectuais à l'époque.
Vous avez eu des cercles rouges quand même sur le bras.
Oui, ils sont apparus un peu après le début de mes symptômes. Mm-hmm. Et quand c'est apparu sur mon bras, en fait, j'avais, je pense, 3 ou 4 cercles ovales là, sur mon bras. Et quand c'est arrivé, ben, c'est comme ça pique pas, ça chauffe pas, qu'il n'y avait pas de douleur, ben, je m'en suis pas souciée. J'avais jamais entendu parler de la maladie de Lyme. En 2013, on en parlait peu, contrairement à aujourd'hui. Donc, j'ai laissé ça aller. Mais par contre, les symptômes se sont mis à évoluer là, à travers le temps.
Et c'était quoi que vous ressentiez?
On va parler de fatigue, douleur au cou, sensation de lourdeur à la tête... qui m'ont amené à consulter dans le système médical. Puis au début, ils m'ont diagnostiqué une sinusite parce que ça ressemblait à ça. Par contre, les antibiotiques que j'ai reçus ont répondu partiellement. Par la suite, j'ai continué à être malade puis à dégrader. Puis je vous dirais que sur une période de... environ 5-6 mois, on est passé des symptômes que je vous ai dit à des symptômes cardiaques, neurologiques. Il y a des moments où je me rendais dans de perte de mémoire. Je me rendais dans une pièce, je ne savais pas ce que je faisais là. Je voulais mettre mon auto sur le drive, je la mettais sur le recul. Je cherchais mes mots. Et quand je me suis retrouvée un jour à l'urgence, dans des symptômes extrêmes, j'étais en train de paralyser. J'avais des douleurs articulaires comme qui se déplaçaient partout dans mon corps.
Paralysie aussi du visage?
Oui, c'est ça, un début de paralysie du visage.
Wow! C'est des symptômes assez effroyables. Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore la maladie de Lyme?
Je considère que j'ai encore la maladie de Lyme parce que on parle aujourd'hui de la maladie de Lyme, mais il faut aussi penser aux co-infections qui viennent.
Ouais.
Parce que les tiques, elles ne transmettent pas juste la maladie de Lyme, mais toutes sortes aussi d'autres pathologies. Mmh. Donc, actuellement, moi, je considère que ma condition de santé s'est améliorée à 90 % suite à de longs traitements antibiotiques, pas des courts traitements comme les protocoles actuels le suggèrent. Et le 10 % qui reste, ben, c'est ça, j'arrive à vivre avec, mais c'est ça. J'ai des plus de difficultés, j'ai moins d'endurance physique qu'avant. En fait, ça a quand même un impact sur ma vie au quotidien.
Oui. François, quand tu entends ça, tu reconnais les symptômes?
Ben, il y a certains des symptômes que je reconnais, bien sûr. Mm. La fatigue, les articulations, les raideurs, les douleurs, la pression à l'intérieur, en arrière des yeux. Oui, je reconnais ça. Sauf que dans mon cas, moi, je croyais que c'était dû aux AVC passés l'année dernière, à la chirurgie. Mais ça semble faire du sens que ces symptômes-là, c'est la maladie de Lyme.
Ouais.
Alors, quand le médecin, comme je le disais tantôt, lors d'un examen de routine, examen annuel, a fait la prise de sang, il a reçu évidemment les résultats et il m'a appelé immédiatement pour me dire « Voici, tu as la maladie de Lyme. »
Vous êtes positif.
Ce que je questionne, c'est que oui, on est dans une zone endémique, évidemment, Montérégie. Chez nous, c'est pas accessible à tous, cet examen-là. Et moi, quand j'étais à mon rendez-vous annuel, le docteur a coché cette petite case-là, j'imagine, la formule sanguine pour la maladie de Lyme. Mais ma conjointe, mon épouse, qui est allée aussi, elle, non, il l'a pas coché. Mais elle est dans le bois tous les jours avec les chiens.
Ouais,
c'est ça. Alors, il y a une inquiétude de ce côté-là. Mais les symptômes, oui, que Annie a expliqué, oui, je les ai vécus pour certains. Et il y en a certains que je n'ai pas vécus. J'ose espérer que je ne me rendrai pas là.
Oui. Donc là, quand ton médecin a vu que tu étais positif au test qu'on fait, c'est le test ELISA que tu as eu ou tu sais lequel c'est?
On m'a expliqué le processus. Il y a ce test-là. S'il est positif, c'est envoyé à Winnipeg.
Ouais.
Et là, ça prend jusqu'à 6 semaines, effectivement.
C'est très long. Alors, je veux dire, c'est tellement long que c'est même ridicule. Parce que tout le monde dit que pour la maladie de Lyme, si tu te fais piquer, que tu as la morsure, que tu vois le halo rouge, il faut vraiment intervenir rapidement parce que c'est dans les premières heures, idéalement les premiers jours.
Les premières 24 heures, dit-on.
Oui, parce qu'après, la maladie transmise par la tique va aller dans ton corps.
Oui.
Et donc, les traitements d'antibiotiques doivent être administrés dans les premiers jours, sinon ça va être un peu tard pour intervenir. Fait qu'un test qui prend 6 mois à se rendre, ça n'a juste pas de bon sens, là.
Ben non, ça n'a pas de bon sens. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'évidemment, l'hôpital d'Ormiston envoie ça à Charlemagne. Charlemagne, s'il y a un positif, ça s'en va à Winnipeg. Si c'est positif, ça revient au médecin. Et là, le médecin avise le patient. C'est ce qui est arrivé dans mon cas.
Oui. Annie voulait dire quelque chose là-dessus.
Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que François, en fait, il est nouveau dans l'univers de la maladie de Lyme. Et moi, je veux juste intervenir en disant que oui, les tests sont très longs, mais ils ne sont pas efficaces non plus. Il y a beaucoup de patients qui contracte la maladie de Lyme et qui répond
il y a des faux
négatifs
au test. Ouais. Mais lui, il est positif. Il a été chanceux d'avoir un vrai positif. Mais il y a beaucoup de faux négatifs. Moi, dans mon documentaire, j'avais beaucoup de gens qui s'étaient fait dire non, vous ne l'avez pas. Il ne l'avait pas au Québec. Il allait aux États-Unis, de l'autre bord des lignes, à 1 heure d'ici, puis il était positif au test américain de la maladie de Lyme. Donc, il y a plusieurs enjeux par rapport à cette maladie. Évidemment, ce qu'on veut essayer de rappeler aux gens aujourd'hui, c'est la meilleure façon de prévenir les problèmes, c'est de vous éloigner des tiques. Le problème, c'est qu'il y en a partout. Il y en a vraiment de plus en plus partout. Et on a beau dire aux gens, mettez des pantalons. Le Québec, c'est un... Tu fais du camping, là, les gens vont aller dehors. Annie, je ne sais pas comment vous pouvez nous dire aux gens, faire attention.
Moi, je trouve que le meilleur moyen de prévention, c'est de savoir qu'elle existe et qu'elle a... De grandes conséquences. Alors, il faut pas se mettre la tête dans le sable. On vit avec les changements climatiques. L'expansion de la tique, elle est partout sur notre territoire. Oui, il y a des zones endémiques au Québec, mais on doit penser qu'elle peut être présente partout sur le territoire du Québec. Donc, on continue de faire nos activités à l'extérieur, mais on est conscient. On fait pas exprès pour se mettre dans des zones à risque. Si on peut éviter les herbes hautes, les broussailles, on le fait. Et sinon, on y va tout de même, mais par contre, on s'inspecte sérieusement à la fin de l'activité.
Parce que vous, votre conjoint et votre fille aussi
ont eu la maladie de Lyme, oui.
Vous vous en êtes rendu compte comment?
Nous, c'était vraiment par les symptômes. Comme je vous dis, la présence de la tique passe majoritairement inaperçue parce que les tiques nymphes et les larves, ils sont aussi petits qu'une graine de pavot.
Ouais.
Alors, et quand la tique nous mord, en fait, qu'elle nous pique. Elle anesthésie, donc on ne ressent pas la morsure de la tique.
C'est incroyable, pareil. Mais donc, vous l'avez vu parce que... Avez-vous vu le halo rouge autour de la morsure?
Moi, j'ai eu un halo, mais le reste de ma famille n'a pas eu d'érythème. Et il faut se dire aussi que le focus est souvent mis sur l'érythème en forme de cible.
Oui.
Et quand il y en a. Et il n'y a pas que cette forme de cible. Il y a à peu près, je vous dirais, 6-7 formes d'érythème qui sont associées à la maladie de Lyme.
Donc, il faudrait s'en méfier. Il faudrait prévenir, évidemment, on fait attention. On va dire comment après la pause. On a Amir Kadir, le docteur Amir Kadir, qui est spécialisé en microbiologie et infectiologie, qui va nous redonner les espèces de moyens là, de prévenir. Et on va également parler d'antibiotiques, mais une fois qu'on l'a comme ça, vous vous en êtes rendu compte, ensuite votre conjoint, vos enfants, eux
C'était par les symptômes.
Ouais,
c'était
vraiment
l'ensemble des symptômes. Et quand on est aux prises avec la maladie de Lyme et qu'on teste négatif dans le système de santé, quand on réussit effectivement à avoir un test, parce que c'est pas donné, c'est pas d'emblée les médecins qui vont prescrire un test de la maladie de Lyme, on se retrouve en errance médicale dans le système à passer plein d'examens qui ressortent souvent tous négatifs les uns des autres, mais on est malade, on est profondément malade et gravement malade. Et la majorité des membres, parce que ça fait plus de 5 ans que je suis impliquée dans l'association, j'ai entendu des milliers de témoignages et à chaque fois, les histoires sont... C'est comme le jour de la marmotte. C'est des noms différents et des histoires de souffrance qui se ressemblent et d'errance diagnostique. Et c'est
pourquoi aujourd'hui, c'est encore comme ça? Pourquoi c'est au goût? Là? Tu es chanceux, tu as un médecin qui va cocher pour le test.
Ouais.
Si tu n'es pas chanceux, ben ton médecin ne le fera pas. Si tu es chanceux, ton médecin va avoir cette connaissance par rapport à la maladie de Lyme. Mais si tu n'es pas chanceux, ben ton médecin il va continuer de nier que c'est un problème de santé publique. Comment ça se fait que c'est encore ça?
Ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de Lyme est dans une controverse médicale. Donc, il y a une majorité de professionnels de la santé qui adhèrent à une façon de voir la maladie de Lyme, qui est celle qui est en ce moment le protocole officiel. Donc, si on résume ça brièvement, c'est que de ce côté-là, c'est que la maladie, elle est facile à diagnostiquer, elle est facile à traiter et on s'en soucie pas très. Mais en réalité, nous, ce qu'on vit les patients, c'est que la maladie, elle est facilement... on la contracte facilement et qu'elle est difficile à traiter.
François, toi qui es un nouveau mordu.
Oui, un nouveau mordu, si on veut. Tu parlais de précaution tantôt. Qu'est-ce qu'on fait? Regarde, moi, je ne déménagerai pas pour autant. On ne déménagera pas pour autant. Oui, c'est une zone endémique.
Tu habites...
Saint-Bernard-de-la-Côte, oui, près de la frontière, le chemin Roxham, l'infâme chemin Roxham. Moi, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. C'est sûr que je me déplacerai moins en short, moins en T-shirt quand je vais prendre mes randonnées, quand je vais faire mes randonnées. Mais à la maison, c'est une pratique commune que dès qu'on entre de cette randonnée-là, ou dès que ma femme entre de la randonnée, les vêtements vont à la sécheuse et les gens vont à la douche. Après une inspection, il y a une douche. C'est automatique.
C'est pas reposant, sérieux. Chaque fois qu'on sort dehors, il faut s'inspecter.
Ben chaque fois qu'on va faire une randonnée, il y a des hautes herbes en arrière parce que c'est un champ de culture. Il y a le boisé non loin. On amène les chiens là. On ne s'empêchera pas de vivre. On va prendre des précautions, comme je l'ai dit. Les vêtements de la sécheuse, les gens sont inspectés. Et puis, c'est la douche.
Ouais.
Pour l'instant, c'est ça.
Moi, ça m'a, je vous avoue, là, depuis mon documentaire, ça m'a enlevé beaucoup de plaisir à aller dans le bois.
Ah ben oui.
Moi, là, je le dis souvent en blague, là, je veux pas qu'une feuille me touche parce qu'il peut y avoir une tique sur la feuille.
Oui.
Écoute, tu deviens un peu...
De mon côté, j'y vais encore, mais... J'ai pas la même vision qu'avant. J'ai pas la même insouciance.
Ouais. On va poser la question aux auditeurs. Est-ce que... vous connaissez bien cette maladie-là. Est-ce que ça vous inquiète? Parfois, il y a des gens même qui sont dans un état de panique quand on leur annonce, malheureusement, qu'ils testent positif au test pour savoir s'ils ont contracté la maladie. C'est une maladie qui, malheureusement, peut être très, très longue à soigner. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut donc être rapide dans l'intervention. Il y a encore une espèce de déni de la part du monde médical. Il y a des médecins réfractaires à ça. C'est étonnant parce que dernièrement, je suis allée en Europe puis en France, par exemple, vous savez, je suis un médecin. Si vous décrivez des symptômes qui peuvent avoir l'air des symptômes qu'Annie ou François décrivaient, ils vont tout de suite vous dire, avez-vous été dans le bois? Avez-vous été marcher en nature? Avez-vous déjà eu la maladie de Lyme? Avez-vous déjà été testé? C'est comme une des premières questions qu'on pose. Au Québec, là, moi, j'ai jamais un médecin qui m'a posé cette question-là. Jamais. On va voir ce qu'en pense docteur Amir Kadir tout de suite après la pause. Puis dites-moi, vous, comment vous voyez cet enjeu de santé publique 514? Si vous avez été mordu, bien sûr, on veut avoir votre témoignage. Comment avez-vous été traité par le système de santé? 514-790-9850. Et partout, sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Le docteur Amir Kadir est médecin spécialisé en microbiologie, infectiologie à l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne. Bonjour, docteur Kadir.
Bonjour, Mme Marcel.
Vous avez remisé votre sarreau pendant 10 ans pour être députée à Québec, mais là, vous avez l'occasion de nous reparler de vos connaissances médicales parce que vous avez également eu l'occasion de mettre à profit votre expérience de médecin lors de la commission parlementaire qu'il y a eu, entre autres, où on a entendu l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Comme médecin, docteur Kadir, que vous avez entendu des gens le témoigner de leur souffrance et tout. Qu'est-ce que vous pensez du traitement qu'on fait de cette maladie ici au Québec?
Ben, c'est pas juste au Québec, hein. Partout dans le monde, ouais. Il y a une controverse qui entoure la maladie. Il y a des endroits comme, par exemple, dans les États du Nord-Est américain où la maladie est prévalente depuis plus longtemps avec une plus grande intensité, où il y a plus de médecins qui sont au courant, qui sont sensibilisés à la chose. Mais moi, je mets vraiment la faute sur la bactérie elle-même. Cette bactérie-là présente des particularités avec d'autres qui lui ressemblent, là, qui sont, enfin, qui ont des propriétés qui peuvent lui ressembler, des propriétés qui font en sorte que la réponse, les défenses normales de l'organisme ne fonctionnent pas adéquatement. Le système immunitaire est neutralisé suffisamment pour souvent, enfin, dans une partie, chez une partie des gens infectés, pour ne pas produire les anticorps qui nous servent à diagnostiquer la maladie. Donc, on a de multiples problèmes. D'abord, l'immunité ne fonctionne pas pour surmonter la maladie. Ensuite, l'immunité ne produit pas les anticorps qu'on a besoin pour diagnostiquer, ce qui crée un cercle vicieux. Et puis ensuite, il y a eu toutes sortes de problèmes aux États-Unis liés justement à ces difficultés qui font que c'est la controverse la plus importante du monde médical actuellement à l'heure où on se parle.
Incroyable quand même. Et pendant des années au Québec, je peux vous le dire, docteur Kadir, les médecins niaient carrément que ça existait, que c'était vraiment dans la tête des gens. Moi, j'ai rencontré des femmes qui se sont fait dire, des Québécoises se sont fait dire pendant des années qu'elles avaient la sclérose en plaques, alors que, parce que c'est des symptômes, on l'a vu avec mes invités, Annie et François, qui décrivaient leurs symptômes. C'est des symptômes de, ça pourrait passer pour la fibromyalgie, parce que t'as mal partout. Ça pourrait passer pour la sclérose en plaques, parce que parfois les gens se ramassent en chaise roulante ou à marcher avec des cannes, pour finalement tester positif à la bactérie transmise donc par ces tiques infectées. Ou autre co-infection, c'est extrêmement inquiétant en tous les cas.
Oui, Mme Maréchal, cette bactérie est une spiroquette qui a comme proche cousin la syphilis. La syphilis aujourd'hui, c'est un problème réglé, mais il y a 50 ou 60 ans, la syphilis aussi se présentait comme une espèce de grand imitateur qui faisait en sorte qu'une personne dont l'infection initiale était passée inaperçue, pouvait se ramasser avec le temps, avec toutes sortes de symptômes bizarres qui pouvaient tantôt imiter telle ou telle autre maladie. Alors maintenant, le Lyme, c'est un peu ça. Ça peut passer, comme vous l'avez dit, pour le syndrome de fatigue chronique, parce que c'est toujours accompagné de la forme chronicisée ou la conséquence de la chronicisation de la maladie. Ça accompagne de beaucoup de fatigue et des douleurs de type musculosquelettique. Alors, ça passe pour la fatigue chronique, la fibromyalgie, mais ça peut passer pour une arthrite, ça peut passer pour une sclérose en plaques, comme vous l'avez dit. Et donc, je crois, j'essaie d'être positif, là, comme vous savez, grâce au travail fait par les patients et les patientes. On a organisé cette commission l'année passée au mois de mars, et aujourd'hui, l'INES a déjà préparé un rapport dont j'étais un des trois réviseurs, et qui va paraître à la fin du mois. Le premier volet d'une revue systématique qu'on a fait de Lyme. Le premier volet, c'est pour la phase aiguë. Heureusement, la plupart des gens, s'ils sont bien identifiés en phase aiguë et traités, il n'y aura pas de conséquences à long terme. Et il va y avoir un deuxième volet qu'on espère qui sera publié vers octobre-novembre prochain, qui fait que en 2019, en ce qui a trait au Lyme, on devrait sortir un peu du cul-de-sac dans lequel on se trouvait depuis des années.
Êtes-vous en train de me dire, docteur Kadir, qu'on va revoir le protocole de diagnostic et de traitement de la maladie?
Absolument. Donc, d'ici la fin mai, normalement, le gouvernement devrait dévoiler le premier volet du rapport de l'INES. Puis ensuite, au moins, on espère dans les 6 mois qui vont suivre, on pourra faire la même chose pour l'autre volet. Le deuxième volet va aller en profondeur sur la question des formes, des conséquences chroniques d'une maladie de Lyme.
Et qu'est-ce que ça va vouloir changer? Qu'est-ce que ça veut dire pour les patients ce que vous nous annoncez ce matin?
Ben d'abord, ça va vouloir dire un énorme effort de sensibilisation des médecins, des soignants. Ces deux rapports-là vont être accompagnés, je l'espère, par une initiative du gouvernement. D'ailleurs, j'ai une rencontre avec le ministère demain au sujet de ce genre de maladie chronique, c'est-à-dire le syndrome de fatigue chronique et le Lyme en sont deux prototypes, il y en a d'autres, pour que le gouvernement vraiment mène une campagne de sensibilisation auprès aussi des médecins pour dire « voici, on a pour vous de la documentation, il faut revoir notre approche, la maladie est en expansion au Québec, on n'a pas fait de surveillance depuis 2015 ». Va falloir le refaire pour que tout le monde soit bien outillé, les médecins en première ligne surtout, et surtout reconnaître le fait que l'existence de la maladie n'est pas limitée uniquement à la Montérégie ou en Estrie. On retrouve malheureusement des gens un peu partout.
Et ceux qui ont été diagnostiqués 3 ou 4 ans après, malheureusement, leur morsure, ceux qui ne sont plus en phase aiguë, c'est-à-dire dans les premiers jours, mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour eux aussi ou ils vont être pris avec la Lyme toute la vie avec des symptômes épouvantables à vivre?
Ça, c'est l'autre volet. Il y a actuellement aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, avec des gens aussi de la Californie, une espèce de conglomérat qui s'appelle le Global Alliance for Lyme, qui est formé des meilleurs chercheurs dans le domaine. Il y en a de l'université Johns Hopkins, il y en a d'autres de l'université de Columbia, il y a aussi des gens de l'université de New York et de Stanford qui ont mis leur effort en commun pour créer un Global Alliance for Lyme où depuis, je dirais, 3-4 ans, on voit beaucoup, beaucoup de nouvelles recherches, de données fondamentales qui viennent s'ajouter, qui vont en sorte qu'on est en... On est vraiment là à l'orée d'une transition, d'un changement de paradigme où notre regard de l'ensemble du monde médical sur la question du Lyme et de ses conséquences à long terme vont changer. Et j'espère qu'à brève échéance, avec ce genre de travail-là, l'information qui est disponible maintenant en recherche fondamentale va se traduire par de l'information qui va arriver aux cliniciens. Aux
parce que les gens sont vraiment, ils sont dans un état de panique, Dr Kadir. Là. Les gens, ils vont plus dehors. Ceux qui sont vraiment, qui commencent, dès qu'on se met à chercher un peu là, de l'information, là, ou qu'on a vu mon documentaire sur la Lyme à Canal Vie, qui va d'ailleurs être diffusé dans le cadre de la programmation estivale. Donc, suivez ça, entre autres, au mois de juillet. Je peux vous dire, ça va être le 10 juillet, le vendredi 12 juillet, mais également au mois d'août. Mais déjà, juillet, c'est quasiment un peu tard parce que on sait aussi que les limes, en fait, la maladie de Lyme transmise par ces tiques-là, les tiques sortent même en mars-avril. Il ne faut pas croire ces petites bibittes-là, c'est tranquille.
Madame Maréchal, il faut quand même faire attention. C'est-à-dire qu'il faut être attentif,
voilà.
Il faut surveiller, mais il ne faut pas paniquer. Alors, si j'ai une recommandation à faire, dorénavant, quand vous allez dans le bois, ben, essayez de porter des pantalons longs. Ou si vous voulez porter des pantalons courts, mettez des bas blancs, des bas plus longs et surveillez-les à tous les jours. Au bout de 3-4 heures, surveillez ce qu'il y a sur vos bas, surveillez ce qu'il y a sur...
Et surveillez vos animaux de compagnie aussi. Parce qu'il y a des gens, exact. D'ailleurs, docteur Kadir, qui disent « Comment ça se fait que mon chien, je l'amène chez le vétérinaire, il reçoit un traitement préventif contre les tiques? Comment ça se fait que les humains, on n'a pas ça? » Je trouve que c'est une bonne question que posent les auditeurs.
C'est parce que les vaccins, pour être efficaces, doivent avoir certaines propriétés qui fait qu'il y a des vaccins qu'on peut utiliser chez l'humain, qu'on ne peut pas utiliser chez les animaux et vice-versa. Et on n'est pas rendu là un bon vaccin pour le Lyme. Et même chez les animaux, ben, je dirais l'efficacité est mitigée.
Ouais. Merci beaucoup, Dr Kadir.
Merci
d'avoir
merci,
pris le temps.
Merci, Mme Maréchal. À
bientôt.
Merci bien.
Évidemment, bon, chaque fois qu'on parle de Lyme, c'est fascinant avec l'équipe. On se dit, bon, une demi-heure, on en a déjà parlé tellement souvent, mais là, regardez ça, les lignes sont pleines. On aurait quasiment envie de continuer. On en reparlera, c'est ça que je vous dis, là. On en reparlera. Là, on est au début là, de la saison. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut faire attention. Annie, merci beaucoup d'avoir été là. Peut-être un mot de la fin à tous les deux, Annie Roussy et François Doré. Annie?
En fait, je vous remercie de nous avoir invités. Puis parce que plus qu'on va en parler, plus que les gens vont être à l'affût, voilà. Meilleure la prévention va être.
François. Bonne chance.
Ben, merci beaucoup.
Ça finit quand, ton traitement d'antibiotiques?
Dans une semaine. Après ça, je suis devant l'inconnu. Mon médecin a dit, regarde, je vais tester positif longtemps. Est-ce qu'il y aura des conséquences, d'autres symptômes? Je l'ignore.
Ouais. 2 semaines de traitement antibiotique?
3 semaines au total. Il me reste 1 semaine.
OK. L'expérience de ceux qui l'ont souvent, on dit que c'est 6 semaines, en tout cas, au moins. On sait qu'au Québec, le traitement n'est pas assez long. C'est ça le problème. On a quand même eu, c'est intéressant, parce que Américadia nous a annoncé qu'il se passerait quelque chose au Québec. Là.
Ouais.
Donc, voilà. C'est, au moins, il y a de la nouvelle là-dedans. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
On va s'arrêter ici. Très courte pause. Un grand dossier en ce moment, c'est bien sûr cette commission sur le port des signes religieux au Québec, tout ce qui est en rapport avec le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État. Et il y a un humoriste qu'on aime bien, Guy Nantel, qui a décidé de s'inviter dans le débat actuel. On le reçoit tout de suite après la pause. Restez là, tout le monde.